Bienvenue sur la rosée. Ce n'est pas la voix de Ilan, c'est Boris. Et je m'apprêtais à... Mais qu'est-ce que tu fous, Kader? On rentre pas avec un scooter dans un studio, putain. Mais non, Kader, bien sûr que t'es le bienvenu, mais pas avec ton scooter. N'enlève surtout pas tes chaussures. Tu me demandes pourquoi? Demande à tes pieds. Fils de pute. Tu veux savoir ce qu'on fout? Ben là, on s'apprêtait à enregistrer un medley de scènes du théâtre. Quoi, c'est nul. Ben, toi, par exemple, quel genre d'émission t'aimerais entendre? Qui te prendrait par les tripes?
Installez-vous. On va passer un bon moment. Papa est rentré à la maison. Il va tous vous border. Il y aura une histoire pour tous les cœurs. Un cœur pour toutes vos histoires.
Back row.
vous allez entendre une succession de scènes de La Révolte des Laits, une libre adaptation de la bande dessinée de Guido Buzzelli.
C'est l'histoire d'un peuple de lait qui passait son temps à chercher dans les mines une substance pour que les beaux à la cour restèrent beaux, jeunes et vigoureux. En échange, on les nourrissait avec de la bectance infecte et on les logeait dans des grottes. Les jours de repos, certains laiderons priaient le dieu Papa Tao et d'autres forniquaient dans la forêt. Des orgies de lait, mais bucoliques. Et quelquefois, les jours de chance, des demi-laits participaient aux cochonneries. Hormis cela, pas grand-chose parmi les distractions. Ah si, les fissures. Une idée charitable des beaux. Au plus profond des grottes, deux fissures. L'une nous montre une orgie de beaux avec un lait. Et l'autre, un beau sadique en train de torturer un autre lait. Aujourd'hui, il n'y a que Guido comme spectateur. Il regarde. C'est un peintre, mais il ne veut surtout rien imaginer. Il souhaite que plus tard, devant sa toile, les images lui reviennent.
Ah, d'accord.
Spartak, le suprême guerrier, et sa fille Trécine.
Suprême guerrier, les beaux vont déclencher une nouvelle guerre.
C'est ta faute. Tu étais censé susciter la révolte. Au lieu de ça, tu passes ton temps dans le luxe et les orgies. Ne nie pas, je sais tout. Tu es un porc. Tu l'admets ?
Je l'admets.
Ah, tu admets n'être un porc que pour continuer de l'être, hein, je te connais.
J'ai bien envie d'agir au suprême, mais j'ai toujours mes sales instincts qui remontent à la surface.
Il faut bien que ce soit difficile, idiot.
Ah, c'est vrai. Sinon, on serait beaucoup être de grands personnages.
Mais comment tu le sais qu'il va y avoir une guerre ? Je suis pourtant bien informé, je n'ai rien entendu de tel.
Je le sais parce que je suis un porc.
Ah, toujours des cochonneries, Spartak. Répète-moi cela, je suis certain qu'il y aura de quoi s'émoustiller pour pas cher. À l'oreille, voyons.
Il regarde autour de lui.
Malédrone est peut-être planqué sous le tapis.
Spartak s'exécute.
C'est quand même fou, ça peut amener dans les hautes sphères les cochonneries.
Et sinon, Trécine ?
Qu'est-ce que c'est que cette association d'idées ?
C'est-à-dire ?
Je parlais de cochonneries et tu me parles de ma fille.
Ah non, mais c'est que... Enfin, ça m'est venu...
Non, mais c'est que quoi ?
Non, mais je n'ai pas voulu au suprême. Je vous assure que c'était deux idées distinctes. Votre fille, d'un côté, et cochonnerie tout à fait de l'autre. C'est bien rangé dans ma cervelle.
Suffit, Spartak. Tu me fais mal à la tête. J'espère juste que tu ne me donnes pas des informations pour flirter avec ma fille.
Pas du tout, papa. C'est un garçon très sérieux. D'ailleurs, il comptait de ce pas m'emmener au cours de papa-autisme.
Ah oui, oui, c'est très important, ça. Imprononçable, mais très important.
En allant à la fête.
Tu as vu ? Je t'ai sauvé la peau.
C'est normal. Nous sommes faits l'un pour l'autre.
Arrête tes bêtises, Spartak. J'espère que tu as tenu ta promesse.
À ton avis ?
Il ne se permettrait pas de me décevoir, mon petit ami.
Je suis ton petit ami ?
Par la taille, Spartak. À présent, arrête de poser de mauvaises questions et dis-moi que tu as cette invitation.
Spartak tend un carton et Trécine lui saute au cou. Zénunon entre.
Mais pourquoi vous voulez aller danser avec les beaux ?
Parce qu'on s'ennuie.
Va donc te choisir un lait et fonde ta secte comme tout le monde.
Je ne suis pas tout le monde.
Moi, je suis tout le monde. Alors écoute les conseils d'un sage et rentre tout de suite dans ta grotte.
Allons-y. Il nous baratine ce mocheton. J'ai envie de danser.
Dégénéré. Tu veux finir sur les genoux des beaux, comme les autres ?
Je ne réponds plus, je m'en vais.
Trécine et Spartak s'en vont, mais Zénunon rattrape ce dernier par le bras.
Et toi, là ? Pourquoi tu fais le guignol à la cour ? Tu te crois meilleur que nous ? Tu seras jamais comme eux. Ils sont trop beaux.
Mais pas du tout. Mais pourquoi tu dis ça ? Je... C'est un boulot. Et puis, j'ai quand même des avantages.
Pitoyable.
Zénunon, ça... Ça me vexe que tu me dises ça. En appuyant bien sur le mot, en plus.
Tu espérais peut-être que je ne te méprise pas ?
Oui.
Si je n'avais pas l'âme sensible, je te poterais le derrière, Spartak.
T'es énervé parce que tu m'aimes, Zénunon, et que j'ai refusé d'aller avec toi dans la grotte.
Alors là, pas du tout. Tu vois, tu parles trop vite. Bien entendu que ça m'aurait bien plu, le contact charnel avec toi, Trécine. Mais crois-moi, depuis mes premiers fantasmes, t'es devenu un sale personnage, une arriviste aux yeux bandés, médiocre et naïve. Et je te dis ça alors que moi, je boite et que j'ai une petite queue qui frétille derrière. D'ailleurs, en ce moment, ça frétille. C'est parce que je suis satisfait de t'avoir craché mon venin à la gueule.
Tu sais ce qu'on dit, les ratés ne vous rateront pas.
Ah, bravo! Les grandes phrases, monsieur. Pour rendre hommage à ton intelligence, je vais exécuter la danse de l'ébahi. Tu connais pas? Tu connais pas? Mais pourtant, elle est connue, cette danse. Très pratiquée à la cour.
Zénon commence sa drôle de danse. Il est tellement dans son délire qu'il ne voit pas Spartak et Tressine s'écarter.
Je suis tellement dans mon délire.
Qu'il ne voit pas Spartak et Tressine s'écarter.
Eh non!
Un vigile rapplique sur scène. Eh, il faut partir tout de suite, les drons. Va y avoir une vraie fête sur cette scène.
Je ne pourrai pas...
Non. Dégage, fils de pute. Tressine rencontre Zaborum.
J'adore ça. Faire la fête avec les beaux. Je me sens chez moi. Et même si je ne comprends rien à cette danse, c'est quand même chez moi. Et puis, ils sont tellement beaux, les beaux. Ils sentent bon. Et quand ils causent, c'est chantant. Je suis légère. Je m'appelle Tressine. Et je suis heureuse. Mon père est une brute. Et moi, j'ai toujours rêvé de ça. J'en ai marre de toute cette politique pour les vieux. Et puis si on est laid, ce n'est pas de la faute des beaux. Ah ça non, ils sont si gentils. Ils sont très ouverts, mes nouveaux amis. Pour faire partie de leur bande, il suffit de sentir bon. Ah oui, je veux vous prendre tous dans les bras. Que vous êtes beau. Que vous êtes beau. Que vous êtes beau.
Oh, que tu es jolie, sauvageonne. Oh, ici, on aime ton côté naturel, brut de tes coffrages. L'exotisme à portée de mes pauvres mains, j'ai bien envie de te... Je voudrais bien te... Enfin, si tu te permets, je voudrais bien faire ton éducation. Je m'appelle Zaborum. Zabo, pour les intimes.
Bien entendu, mon bon vieux. J'ai toujours su qu'un brave finirait un jour mon incomplète éducation.
J'aime beaucoup ta lucidité.
La jeune fille. Guido passe par là, et cela tombe bien, puisque là, c'est la scène. Mais dis-moi, petite fille, t'es tout ou est drôlement belle pour une laideronne.
Qu'est-ce que ça peut me faire?
Mais pourquoi tu fais cette tête? Avoir cette bouille toujours pour soi devrait être une fête quotidienne.
J'ai rencontré un monsieur dans une taverne. Il était comme nous, laid. Mais il avait rencontré une jolie fille dans la cour, c'était son malheur. Je ne suis pas sûre qu'elle était si belle que ça, je veux dire, pour être parmi les beaux. Mais le plus important pour faire partie de la cour, c'est les chichis, n'est-ce pas?
Oui, tu as raison.
Alors je suis certaine qu'elle était bardée de chichis.
L'histoire de ce monsieur a l'air de t'avoir bouleversé.
Attends, je vais te montrer.
Elle se déplace physiquement dans ses souvenirs.
T'es toujours avec moi?
Plus que jamais.
Au début, il a attendu que son brouillard se dissipe, et puis il a interprété sa drôle de chanson. Il va falloir que tu interprètes le personnage de mon souvenir.
C'est possible, ça?
Mais oui. Mais oui.
Ça va me venir.
Je te dis que oui, a cappella même.
Ah.
Depuis bientôt un mois et demi qu'elle s'est installée dans ma vie, il n'y a plus de place dans mes nuits pour le sommeil ou pour l'ennui.
Elle s'endort sur mon épaule.
J'ai
dans les yeux ses boucles folles. Ça me fait bien loucher un peu, mais j'aime tant ses blonds cheveux. Mon bras passé sous son aisselle. Elle contre moi, moi tout contre elle. J'ai des fourmis un peu partout, mais je ne bouge pas du tout, du tout. Son petit nez fait de la musique, une musique très sympathique. Pas des ronflements de dragon, des petites plaintes, des petits ah-ah. Moi qui avais le sommeil si lourd, je n'endors plus la nuit, le jour. Pour un comme moi, c'est trop d'amour, ça pourrait me jouer des tours. Il faudrait bien que ça me passe. et qu'avant elle je me lasse de notre amour, oui, mais voilà, sûrement déjà, je suis chocolat. Dans ses rêves, elle murmure, je t'aime. Mais elle ajoute, mon bel Étienne, je suis pas très beau, je m'appelle François, ça me fait tout drôle à chaque fois.
Oui, mais le lendemain, je n'ose lui parler de l'horrible chose. Elle m'embrasse si gentiment, j'ai l'impression d'être sa maman. Qu'elle me quitte ou qu'elle demeure, je ne pourrai plus dormir une heure, tellement elle a comblé mon cœur de bonheur et de malheur.
On m'a confié une mission. Des gens importants ont compris mon potentiel. C'est bientôt fini de balayer, je vais enfin pouvoir m'occuper de ma petite. Je me demande ce qu'elle est en train de faire. Ah oui, elle doit errer. Bon, je préfère ne pas y penser pour l'instant. Une fois ma tâche exécutée, j'aurai une belle récompense. On partira loin avec ma fille, dans un endroit où il n'y aura ni de beau ni de laid. Certainement un endroit désert, mais paradisiaque. Bon, j'ai déjà exécuté la première partie de mon plan. Très facile d'ailleurs. Appâté Zaborum, le libidineux de la cour. Le grand sorcier prépare toutes sortes de potions et il est du genre timide et détraqué du nichon. D'ailleurs, en ce moment même, il s'est entiché de la fille du suprême guerrier, Trissine. Elle fait justement partie de mon plan. À présent, je dois aiguiser ma lame. Ce soir, je vais planter Zaborum dans le cœur. C'est pour la révolution qu'on m'a dit.
Ah, Trissine, belle enfant, viens donc me voir.
Est-ce que je peux vous renseigner, mon bon maître ?
Oh, vous avez vu comme elle m'appelle, mon bon maître. Ça réchauffe le cœur, n'est-ce pas ?
Mais à qui vous parlez ?
Tu m'entends quand je fais ça ? Vous croyez qu'elle m'entend ?
Oui.
Oh, tu es vraiment une fille incroyable.
Arrêtez, je vais rougir.
Non, tu vas plutôt boire.
Ce liquide a l'air infect.
Salé.
Alors pourquoi le boire ?
Pour être définitivement belle.
Je ne le suis pas assez à vos yeux ?
Oh, il n'est pas question de mes yeux, mais des yeux de la cour.
C'est vrai que c'est plus facile de vous séduire, vous.
Oui, voilà, allez, bois.
Je vais boire. Vous êtes parmi les beaux. Et c'est pour ça que vous êtes digne de confiance. Ah, vous m'avez bien eu. Et maintenant, je vais frapper la tête contre la table.
On va bien voir, Trissine, si je suis si facile à séduire, moi. C'est vrai que tu sens bon, Trissine. Mais il va falloir faire plus, beaucoup plus. Tu vas commencer par me montrer tes grands pieds. Oh, si tu savais tout ce qui est possible avec deux pieds, ma Trissine. Mais, Nonote, qu'est-ce que tu fais là ?
Vous n'avez pas entendu la nouvelle ? La reine Mira s'est disputée avec la reine Doufi.
Bah, quel sujet ?
La chevelure de leur petite bête à queue.
Et alors, pourquoi es-tu venu me dire ça ? Et en robe de soirée, en plus.
Parce que c'est la guerre !
Ah bon ? Déjà ?
Comment ça, déjà ?
Non, rien.
Peu importe. Je suis venu vous voir parce que j'ai envie de vous. Juste une fois avant que la guerre éclate et que le désarroi coupe notre libido à nous tous. Et puis je suis une laidronne, vous savez, j'ai fait beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup fait tété.
Oh, la cour, ils disent que les filles qui allaitent leurs enfants sont ringardes. Mais moi, je ne suis pas du tout de cet avis. C'est beau, la nature.
J'ai toujours su que vous nous compreniez. Et puis vous êtes le plus beau. Ne la regarde pas, elle est ridicule, cette fille. Allez, danse avec moi. Allez, approche-toi de moi.
Tu as bu ?
Juste pour me donner du courage.
Oh, tu as raison. Qui plus est, c'est plus excitant l'imprévu. Et puis cette robe, cette robe. Mais dis-moi, tu ne viendrais pas de m'enfoncer une lame dans le ventre ?
Non, je viens de t'ouvrir une porte vers le salut.
J'ai toujours détesté la poésie.
Je suis désolée. Mais t'es quand même un salaud.
Ce n'est pas faux.
Et puis tu allais déclencher une guerre.
Ça aussi, ce n'est pas faux.
Je suis quand même désolée de t'avoir planté. Tu sais, quand tu t'es approché de moi, je me suis aperçue que tu étais vraiment très beau.
Tu veux me planter encore une fois ?
Non, pas du tout. Je sais pas pourquoi je te dis tout ça. Je sais juste à présent que je suis pas meilleure que toi.
Mais si.
J'aime bien quand tu souris comme ça. Ça aussi, j'aime bien. Tu vas vraiment mourir avec un grand sourire ? Tu veux pas essayer de m'éliminer avec tes dernières forces ?
Non, je t'admire trop pour ça. Et puis, il faut que tu t'occupes des tiens.
Tu m'admires ?
Tu crois que c'est qui t'a maintenu à la cour ?
Je me sens pas très bien. Ça serait pratique que tu me maudisses.
Ça y est, Nonotte est amoureuse d'un mort.
We don't have a plot, but at least I'm sure of all the things we got. Babe, I got you, babe. I got you, babe. I got flowers in the spring. I got you to wear my ring.
J'ai faim. Une nouvelle extraite du recueil Écrire et avoir faim d'Avicenne Rieil.
Il est formellement interdit d'avoir faim. C'est écrit partout. Et lorsque ce n'était pas écrit, c'était fortement insinué. Les honnêtes gens repus remplissaient les restaurants. Certains parmi eux paraissaient même ballonnés. C'était sans importance. Ils avaient la posture légale pour engloutir un délicieux repas. Ils n'avaient pas faim. Camarade, une question doit vous tarauder. Quel sort pour les pauvres gens ? Les égouts. Dans ce monde qui contrôlait les ventres et légiférait sur les besoins des dix-ventres, il existait un bonhomme malingre qui longtemps avait vécu au-dessus de ses moyens. Il vivotait à la manière d'un coq qui cavale sans sa tête, et cela faisait quelques mois qu'il retardait l'effondrement. Où trouvait-il la force de courir sans sa tête ? Dans l'amour d'une fille ? Agrippine. Cette amoureuse-là vous cueillait par l'enfance, cet endroit fragile pour tous, et encore plus branlant pour notre héros. Tristan tombait rarement amoureux, mais lorsque le sentiment était présent, il s'en donnait à cœur joie. Ou plutôt à cœur triste. Le geste mélancolique, il aimait comme on fait sauter la planète. Absolument. Il en oubliait sa situation sociale. Il s'agitait, Et qu'importe si Agrippine occupait une meilleure place dans la chaîne alimentaire. On peut bien tomber amoureux de la gueule du loup, marmonnait sa petite âme. Les voilà les bras dans un même paquet de chair, confondus, en serpent. Et comme ça, ils marchent le long du boulevard.
Tu as entendu ce son ?
Lequel ? Nous sommes sur un grand boulevard ?
Son estomac venait de grogner. Il commençait à rougir. Il réfléchissait le plus vite possible à toutes les éventualités, les réponses adéquates, les angles morts de ses propres explications. Or, une partie de son esprit était occupée à maudire son ventre. Il s'était coupé l'appétit en ingurgitant du dentifrice et des biscottes, mais voilà que toute cette entreprise lui paraissait caduque. Son estomac venait de grogner. Il commençait à rougir. Il réfléchissait le plus vite possible à toutes les éventualités, les réponses adéquates, les angles morts de ses propres explications. Or, une partie de son esprit était occupée à maudire son ventre. Il s'était coupé l'appétit en ingurgitant du dentifrice et des biscottes, mais voilà que toute cette entreprise lui paraissait caduque. Il avait faim. Et dans la rue, en plus. À la vue de tous. Vous vous rendez compte de l'impertinence ? Il faut suivre la loi. Cela rassure tout le monde. Sinon, nous sommes des sauvages. Calmons-nous. Racontons calmement.
De quel bruit tu parles ?
On aurait dit un bruit d'estomac.
Quel genre ?
Comme quand on a faim. Je crois.
Moi, je n'ai jamais faim. Je sais pas à quoi ça ressemble d'avoir faim. Toi, apparemment, tu sais. Hein.
À ce moment-là du dialogue, Tristan décida de feindre un léger mépris.
Non. Je ne sais pas. J'ai dit je crois.
Oh, ben Agrippine, je sais que cela ne se dit pas, mais j'ai goûté toute la journée. Je dois être en digestion bruyante.
Et pourtant, nous allons au restaurant.
Ben oui, mon amour, j'aime aller au restaurant au bord du vomissement.
Vous me semblez si maigre. Vos mains... Vos mains... Vous avez dit mon amour ?
Assez parlé de moi. Je sais pas grand-chose de vous. Vous connaissez le son de la faim ? C'est intéressant. C'est une sorte de détail exotique. Puis-je vous demander comment ? Oui, j'ai dit mon amour.
Pas moi directement, mais une amie proche. Tombée amoureuse d'un artiste désargenté.
Mauvaise idée. Ces gens-là vivent dans leur propre merde. Ils ne se rendent pas compte des bienfaits du noble confort. Néanmoins, est-ce cette amie qui vous a fait écouter le son de son ventre ? Ou peut-être le son provenait du ventre de l'artiste ?
C'est étrange à dire, mais oui, cela provenait du ventre de l'artiste.
Ne soyez aucunement gênée par ma curiosité. Vous couchez ensemble ?
Oui.
Les petits dédits vous plaisent ?
Je peux vous le dire à l'oreille.
Oui ?
Les petits délits m'excitent.
Avec moi, vous allez vous ennuyer.
Non, je ne crois pas.
Pourquoi ?
Parce que vous avez l'air d'avoir la dalle.
Tristan fit semblant de ne pas être piqué. Mais si. Et cela lui parut authentiquement mystique, puisque du sang coula de son téton à peine avait-elle fini sa phrase. Alors pendant le dîner, il ne mangea pas. Il s'était privé de nourriture pendant 2 semaines avant de lui offrir ce moment. À présent, il tirait la tronche. La faim toujours là, répétitive. Pourtant, toutes les assiettes étaient présentes.
Je peux savoir pourquoi vous faites la tronche ?
Je ne le sais pas moi-même.
S'il vous plaît, trouvez la réponse avant la fin du repas. J'étais en compagnie d'un charmant garçon. Faites-le revenir.
J'ai commencé à me poser il y a 3 ou 4 ans la question de mes absences soudaines.
Vous n'avez pas trouvé de réponse ?
Négatif.
Vous êtes un garçon bizarre.
Affirmatif.
Alors Agrippine s'approcha, un air sorcière, et elle chuchota.
La faim.
Il recommença à saigner du téton. Et alors que toutes sortes de carnages vinrent à son esprit, il s'en alla léger fumer une cigarette. Le voilà à éponger son propre sang à l'aide des petites serviettes carrées du restaurant. C'est fou ce que ça peut saigner un téton. Il se tenait debout à l'entrée du luxueux établissement. Les voitures passaient furieuses. Les piétons longeaient le trottoir en brouhaha. Il respirait. Au fond de lui-même, il pensait au suicide. À la surface de lui-même, il marmonnait. tous ces sacrifices pour un peu de tendresse? Et puis encore, qu'est-ce qui nous agite dans la tendresse? Il prospectait. En lui, un conseil d'administration. On y parlait sentiments comme on parle fric. Dans son assemblée intime, un moustachu convenait que toute cette entreprise de séduction frôlait le ridicule. Qu'il est difficile de nier son quotidien. Toute philosophie est inepte si elle n'explique pas nos occupations. Nous avons faim. Tout notre élan de vie nous pousse à penser cette affirmation. Et pourtant, nous voilà en train de faire le comédien. Et très mal en plus. Aucune contradiction possible à tout ce pessimisme. C'était parfaitement fignolé. Il ne manquait plus qu'à aller se pendre. Et pourtant, Agrippine apparaissait sous le porche. Autour de la table ne restaient plus que les fantômes. Tout se passait devant le restaurant, à la vue des voituriers, des passants, des mouvements contradictoires. Et quand je dis tout, je parle surtout d'amour. Oui, d'amour. Agrippine attrapa les joues de son triste à la manière d'un bon fruit. Elle pensait bien croquer, mais elle embrassa tendrement. Elle offrait un monde à un mort de faim.
S'il vous plaît, Tristan, j'ai envie, pour me divertir, de jouer à un jeu.
Dites-moi.
Et si nous revenions à table et que l'on s'amusait à manger à bouche que veux-tu, comme des morts de faim? L'appétit est de mauvais goût et je déteste cette convenance.
Nous allons sûrement être dénoncés. Nous risquons beaucoup.
S'il vous plaît. Il est devenu trop rare de s'amuser.
Supplia Agrippine. L'insolence est la petite sœur moche de la liberté. Artichaut croquant, moutarde au cassis, velouté de potimarron, poêlé de chanterelle, grenadin de veau au mori, marbré de marron, pigeon de Brest rôti cèpe et foie gras de canard et goulûment, avec amour et pauvreté, deux notions archaïques. Tristan se fait resservir du pain et quand il mangeait, sa bouche pourtant pleine lui laissait le gosier béant. Encore, semblait supplier la grande gueule remplie. Cela faisait du bruit. Un bruit qui excitait encore la faim. Agrippine s'était mise à l'imiter. Il ne disait plus rien, préférant juste se regarder. Le sourire de deux enfants coquins, tout leur malice dans cette bêtise-là. Pas une autre, celle-ci, pour enfermer tout un monde dans ce projet. Les clients du restaurant s'étaient mis à les regarder. Un air sot dans le vide. Et pourtant très prochainement méchant. Très intolérant. Ces braves gens avaient toute leur frustration à estomper. Quoi de mieux pour repousser le jugement de soi que de s'offusquer des badauds qui dépassent? Tristan et Agrippine n'épousaient plus le décor. Ils dépassaient. C'est bien ce fait qui excitait le plus la jolie. Le joli, lui, sauçait à l'aide du pain le peu de venaison restant dans son assiette aride. Elle venait de lui saisir la main. Et dans une moue vicieuse, elle communiqua sa tendresse par le toucher. Ils se mirent à bouffer dans la main de l'autre. On entendit un bruit sous la table. Quelque chose l'avait tamponné.
Je bande. Je bande, putain. Je mange comme une canaille et je bande. Il va y avoir des péripéties. Je vous demande de monter à bord. Je bande.
Agrippine riait aux éclats. Plus tard, en quittant la table, elle chuchota encore.
J'ai envie de faire l'amour avec vous.
Cela doit être le vin.
J'ai adoré faire cette bêtise en votre compagnie. Je suis toute pleine de confort, mais je n'ai aucune liberté, aucune ferveur. Il me reste le mensonge. Et plus il me reste le mensonge, plus je suis confortable.
C'est important le confort.
Ici, c'est important.
Vous proposez de vivre dans les égouts ?
J'ai envie de faire l'amour avec vous.
C'était la seconde fois qu'elle disait ça.
Que vous êtes douce. Le savez-vous que la police va venir nous cueillir? Ou peut-être votre grandeur est due à votre naïveté?
C'est important, la naïveté.
Je me suis privé de nourriture pendant 2 semaines pour pouvoir vous offrir ce repas. C'est cher, mais c'est une bonne adresse.
Indéniablement.
Je n'ai pas les moyens pour une nuit d'amour.
Mais si.
Je vous assure que non. Je n'ai plus un sou.
Vous avez la liberté et j'ai le fric.
Vous me trouvez libre?
Vous ne le savez pas encore.
J'essaie pourtant de mentir,
Et puis, je ne comprends pas tout à fait mon obsession, celle qui me pousse à crever de faim. Parfois, je la drape de couleurs vives, parfois d'obscurité, toujours un pied à côté, jamais le même. C'est suffisant pour croire en sa propre lucidité.
Et pourtant, pendant que vous guerroyez en vous, c'est toujours le même crève-la-faim qui longe nos boulevards. Et nous, on se demande. À quoi pense-t-il pour s'extraire aussi longtemps du jeu? C'est votre air critique qui m'a tout de suite plu.
Vous êtes un cœur rapide.
Et vous?
Passons les détails cochons. Régler la chambre, avoir affaire au personnel de l'hôtel luxueux, prendre l'ascenseur, ne pas baiser. Enfin la porte close, les rideaux tirés, les pudeurs envolées. Enfin le monde agréable, tout le vocabulaire au sol, avec les nippes, les accessoires plus ou moins à la mode, tout le vocabulaire, et avec tout le baratin, celui entre les hommes et les femmes par exemple. Oui, le plus doux dans l'amour, c'est quand il est plus convenable de retirer son masque pour se prendre dans les bras. J'invoque les violons pendant que le marrant lui croque le sein. Elle sourit, penche la tête, se reprend, lui caresse la nuque, se relâche, se défend comme elle peut, rechute. Ils se touchent, s'embrassent, se font tout un cirque avec différents numéros. Ils font la bête à 2, 3, 10 queues. Ils se font accessoires, anus tuba et bouche sous-marine. On rigole et parfois l'émotion laisse filer une perle dans le coin de son œil. Cette salope de tristesse vieille de 1000 ans s'en va faire un tour. C'est trop gros pour qu'on puisse l'expliquer. Il faudrait bien toute l'humanité autour de la table pour se confier. Les voilà cochons philosophes, enlacés, appelés au fond d'eux-mêmes par un joli projet.
Est-ce que vous entendez comme je vous mange agréablement? Est-ce que vous sentez le poids de mon monde? Est-ce que vous pouvez baisser le regard? Vous me transpercez. Combien de temps cette joie?
Toute la société leur échappait en soupir. Tout Satan en râle. Il ne restait que les corps. Et quand les gendarmes s'étaient mis à tambouriner à la porte, ils baisaient quand même. Les vilains armés de matraques avaient beau faire irruption dans leur nid d'amour, cela restait un nid d'amour. On les séparait, qu'ils s'embrassaient encore. Tristan, saisi par 2 bonhommes, mettait des coups de trique dans le vide, en érection toujours.
« Je suis encore en toi !»
qu'il disait.
« Mais oui, mon amour, mais oui !»
Et puis le couple profita d'une brèche pour s'enfuir. On n'osa pas leur tirer dessus. Et puis si, tout de même, Tristan fut touché sur la fesse. Dehors, la ville se faisait pisser dessus. Et cela fait beaucoup. Une fois la sympathie cruelle trouvée, on allongea le blessé. Agrippine lui couvrit le visage afin qu'il puisse encore s'exprimer. Partout de la pluie à la mitraillette.
Quelle trompe d'eau, ma jolie!
Vous voyez ça?
Ouais, je ne délire pas encore.
Et pourtant, vous en avez perdu du sang.
Vous voulez m'épouser?
Oh oui, mon petit prince. Par contre, je n'arriverai plus à faire semblant. Je déteste cette société.
Moi aussi.
Alors quoi?
Non loin de sa tête, couchée sur le bitume, un petit ruisseau. L'eau abondante voyageait en petite rivière et s'engouffrait dans les égouts. Après cette vision, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Dans les égouts.
Merci Ilan pour cette tribune, merci pour ton intérêt et merci de m'avoir rendu ma bande dessinée, sale voleur. Ne te défends pas, c'est de la littérature. Cela ne va que dans un seul sens. Le mien. Tu vois, j'ai écrit sur mon carnet ce petit texte dans l'après-midi. Pourquoi travailler dans l'urgence? Déjà parce que j'aime bien. Et puis, pour être le plus possible en direct de la vie. Tu vois, Ilan, j'ai parlé avec une personne qui m'est chère ce matin. Il n'y a seulement que mes propres enfants de plus cher. Je lui adresse ces quelques mots d'amour. Oui, c'est un garçon. Et il y a toujours beaucoup de jalousie entre les garçons. Pourtant, je lui rends cet hommage définitif. Je voudrais lui déclarer tout mon amour. Je le connais depuis tellement longtemps. Je sais des choses sur lui que personne ne sait, pas même sa famille, pas même son ex-femme avec qui ils étaient si proches, personne. J'ai des scènes dans le cœur que personne n'a vues. Si la vie est une série, je suis accro à la sienne. Ce matin, il m'a fait pleurer, ce con. Mais pourquoi tu pleures, il m'a demandé. Parce que t'es beau, mec. Tu es à la fois le petit prince et Richard O'Brien. Quand j'ai dit ça, il a souri. Pourquoi tu souris ? Ben, parce qu'en parlant de Richard O'Brien, j'ai vécu un moment magnifique samedi. Et là, il me raconte. Avant de vous raconter ce qu'il me raconte, tout d'abord, je dois vous parler de Richard O'Brien. C'est le compositeur, parolier, scénariste de la comédie musicale The Rocky Horror Picture Show. Un chef-d'œuvre culte. Mon copain a grandi dans un vidéoclub. C'est un film qu'il a vu en boucle tout petit. Et depuis tout petit, il voue une admiration folle pour Richard O'Brien. Pourtant, c'est un acteur secondaire du film, un bossu. Oui, mais on enlève Richard O'Brien, il n'y a pas de film. On enlève tous les autres, il reste Richard O'Brien. C'est-à-dire un monde ambulant. C'est les mots de mon copain. Et très souvent, quand il en parle, et qu'importe si c'est la millième fois, il a les larmes aux yeux. Un génie qui en a pas l'air, c'est encore plus beau, qu'il dit. Il me raconte que justement, il en parlait à une jeune fille, et que comme toujours, son admiration devenait de chaudes larmes. Mais pour cette fois-là, la jeune fille l'avait accompagné.
La nuit n'en finit plus. Et j'attends que quelque chose vienne. Mais je ne sais qui, je ne sais quoi. J'ai envie d'aimer, j'ai envie de vivre. Malgré le vide de tout ce temps passé. Ce temps gâché et de tout ce temps perdu, dire qu'il y a tant d'êtres sur la terre qui, comme moi, ce soir sont solitaires.
Générique.
C'est triste à mourir. Quel monde.
Boris Bayard.
Oh, je voudrais dormir et ne plus.
Ilan Kouartou. Pascal Donato. Mélisande Dorvou. Marcia Feujas. Jérôme Pastigny. Avicenne Riaï. Mona Soufi. Jean-Christophe Staras.